en dirait des nouvelles. Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Il arrive parfois que le remède soit pire que le mal. C'est une donnée que les médecins ont toujours en tête quand ils administrent un traitement. Et on s'en rend compte, depuis le début de la pandémie de Covid-19, la remarque vaut dans bien d'autres domaines que le seul secteur médical. Soigner, ce peut être guérir, mais gare aux effets secondaires. Produire peut augmenter le bien-être à court terme, mais lui nuire à long terme. Et gouverner, c'est souvent arbitrer entre deux mauvaises solutions. Bref, toute médaille a son revers. Et il en est de même quand le progrès technologique met à mal la protection de la vie privée. C'est ce que disent les opposants au tracking, et c'est aussi ce qui sous-tend le roman dont nous allons parler dans un instant, Les fleurs de l'ombre, de notre invitée Tatiana de Ronay. Mais pour commencer, accueillons un artiste malien, un artiste complet, protéiforme, un véritable touche-à-tout qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lassé King Massassi.
Bonjour Monsieur Cadet.
Vous êtes poète, slameur, acteur, photographe. On vous avait reçu d'ailleurs il y a 3 ans pour parler photo lors des rencontres de Bamako. Alors aujourd'hui vous n'êtes pas à Bamako, hein, mais vous êtes en Espagne, à Barcelone. Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Qu'est-ce que vous faites de vos journées?
Je pourrais dire que ce confinement pour moi est du temps de gagner. Vous voyez, des fois, on remet des choses au lendemain et un peu comme des livres à lire, comme des choses à apprendre. Donc, ce confinement m'a permis de revoir un peu tout ce que j'avais mis au lendemain. Comme beaucoup d'êtres humains qui procrastinent, et j'ai arrêté cela depuis le confinement.
Mais vous parvenez à écrire, à travailler sur des photos?
À travailler, oui, parce que sur des photos, oui, parce que en tant que photographe, j'ai essayé d'anticiper depuis que la pandémie a commencé. Je me suis dit, bon, écoute, comme ça va arriver par ici, c'est sûr, je vais faire l'avant, le pendant et l'après. Et il faut dire qu'actuellement, on est dans la pandémie et de temps en temps, quand je descends les poubelles ou quand je vais faire des courses, je bosse sur, je fais des photos, voilà, de ces rues vides, de ces ramblas qui régorgeaient de monde avant l'arrivée du Covid.
Et qu'est-ce qui attire l'œil du photographe alors quand vous vous promenez dans les rues de Barcelone?
C'est le côté un peu cataclysme, un peu vide de la ville, où aussi, moi, ce qui m'attire le plus, c'est le fait que les gens aussi, même avec les masques, ils te sourient. Au moment où on était des milliers donc à circuler dans ces rues, les gens étaient un peu méfiants. Et donc, même quand tu prends des personnes avec des masques, tu vois un peu une sorte de lueur dans leurs yeux, et c'est surtout ça qui m'attire. Voilà.
Et puis tous les 2 jours, vous publiez, Lassé King Massassi, des vidéos en bambara aussi pour sensibiliser la population malienne. Comment ça se présente? Ce sont des petites histoires en fait.
Oui, bon, c'est des petites histoires et aussi j'aborde presque toutes les thématiques qui sont un peu... je parle beaucoup des gestes barrières. C'est des vidéos qui sont structurées de façon à commencer avec une petite histoire de quelqu'un qui ne respecte pas les gestes barrières et ce qui va lui arriver. Et ensuite, je parle aussi des gestes barrières, de tout ce qui est vecteur, des arnaques, aux potions magiques, des charlatans. J'essaie de mettre en garde la population. Parce qu'au Mali, faut pas se voiler, on est presque, je dirais, à 75% d'analphabètes, et les messages n'arrivent que dans nos langues nationales.
Alors pour terminer, Lassé King Massassi, même question qu'à l'ensemble de nos invités de début d'émission depuis le début de ce confinement, est-ce que dans cette période un peu spéciale, il y a un livre, une chanson, un film que vous pouvez nous inviter à découvrir ou à redécouvrir?
D'habitude, moi, quand ce sont des moments comme ça, moi, je propose un musicien malien qui s'appelle Balaké Sissoko, qui a fait une chanson, une musique, un album avec Vincent Segal, Chamber Music. Voilà, j'écoute beaucoup leur album. Voilà.
Eh bien, on va se quitter avec eux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Lassé King Massassi et très bonne journée à Barcelone.
Journée. Merci.
Calais. Bonjour Marjorie Bertin.
Bonjour Jean-François.
Alors que les visites dans les hôpitaux sont toujours interdites, évidemment, en France, vous vous êtes intéressée cette semaine, Marjorie, aux musiciens confinés qui ont l'habitude de venir égayer le quotidien des malades à l'hôpital et surtout aux bienfaits de la musique en milieu hospitalier à travers l'association Musique et Santé qui cherche à maintenir le lien avec les patients.
Oui Jean-François, chaque jour, Musique et Santé met sur sa page Facebook et sur YouTube une vidéo d'artiste se filmant en train d'interpréter un morceau pour le personnel de l'hôpital et bien sûr pour les patients. Des sourires, parfois même du rire, toujours de l'émotion. Comme la violoniste Marina Schisch, qui s'est filmée chez elle, jointe une valse de l'Autrichien Kreisler.
Je voulais vous envoyer un peu de musique, pour vous dire qu'on pense fort à vous, et qu'on vous remercie du fond du cœur.
J'ai eu la chance d'aller jouer à l'automne dernier à l'hôpital Trousseau. C'est quelque chose que je voulais faire depuis de nombreuses années et l'expérience a été absolument magique. Par exemple, je me souviens, il y avait cette jeune fille adolescente qui parlait presque pas, qui faisait signe de pas du tout avoir envie de musique. Et ça demande une grande humilité dans un cadre qui n'est pas celui de la salle de concert où on est vraiment attendu. On est repassé après avoir fait le tour des autres chambres. Et en fait, voilà, là c'était le moment et elle en avait envie. Et ça a été une des plus belles communications non verbales.
Mais comment les enfants perçoivent-ils la musique ? Nathalie Collas, qui est éducatrice auprès des enfants à l'hôpital Trousseau à Paris, nous raconte ce qu'ils ressentent.
Très vite, on constate que l'enfant est captivé par ce qui se passe autour de lui. Il observe à la fois l'instrument de musique et à la fois le musicien. C'est très riche en émotions. Il y a parfois des parents qui se laissent aller avec la musique. Parfois, les plus grands font semblant de ne pas être intéressés, mais il y a quelque chose qui ne triche pas. On voit l'enfant toujours, il faut regarder les pieds à ce moment-là et on s'aperçoit toujours que le pied bat la mesure. Ceux qui peuvent parler posent des questions, demandent à toucher l'instrument, les larmes s'arrêtent, les visages se détendent, se mettent à sourire.
On imagine combien la présence physique des musiciens manque aux enfants. Les artistes compensent ce manque en renforçant l'interaction à travers des déguisements, des dédicaces ou des devinettes. Grégoire Méa, trompettiste à l'Orchestre National de France, s'est maquillé en ours dans une vidéo musicale, bien sûr, mais aussi très ludique.
Bonjour les enfants, les mamans, les papas et toutes les personnes qui sont autour de vous à l'hôpital. Je vais vous jouer une petite chanson à la trompette, à vous de la reconnaître.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
Vous avez trouvé ? C'est la chanson de Balou, l'ours balourd et très malicieux du dessin animé Le Livre de la Jungle que joue Grégoire Méa. Pour renforcer le lien, d'autres artistes font participer leurs enfants aux vidéos, comme le chanteur américain Steve Waring. Son fils Arthur, trisomique et multi-instrumentiste, l'accompagne avec ses maracas.
Salut tout le monde ! Ready Arthur ?
Ouais, Arthur !
Vas-y.
Marjorie Bertin pour VMDN, de la musique adressée aux patients petits et grands en vidéo, en attendant bien sûr donc que la vie reprenne, et dont on peut tous bénéficier puisque ces vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de l'association Musique et Santé. Les liens sont d'ores et déjà à retrouver sur les pages internet de VMD. Il y a 2 ans, dans Sentinelle de la pluie, elle imaginait Paris sous les eaux. Dans son nouveau roman, elle imagine, dans un futur pas si lointain, la capitale française écrasée par la canicule, martyrisée par le terrorisme. Ce n'est pas le pire danger que court son héroïne, une romancière qui lui ressemble un peu. Car tout est inquiétant dans ce livre qui nous entraîne dans un monde de secrets et de mensonges, de rêves et de cauchemars, de surveillance et de contrôle. Un livre qui nous parle aussi de relations mère-fille et petite-fille, du désir d'écrire, de la place de la littérature dans nos vies, du pouvoir de l'imagination et de la liberté de créer. À travers 2 géants du roman du XXe siècle, Virginia Woolf et Romain Gary, Les Fleurs de l'Ombre, le nouveau livre de Tatiana de Ronay, est coédité par Robert Laffont et les éditions Héloïse d'Ormesson, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Tatiana de Ronay.
Bonjour.
Votre héroïne s'appelle Clarissa, elle vous ressemble un peu et pour des tas de raisons. D'abord parce qu'elle écrit et aussi parce qu'elle est passionnée par ce que l'on pourrait appeler l'esprit des lieux. Alors c'est une thématique que l'on retrouve dans toute votre œuvre romanesque, par exemple dans Appartement témoin, La mémoire des murs ou encore Le voisin. Clarissa, elle a publié un essai à succès qui s'appelle Géomètre de l'intime. Est-ce que vous auriez pu en être l'auteur?
Alors, pas exactement, parce que Clarissa était géomètre, ce que je n'ai jamais été. Je pense que je tiens mon obsession des lieux et des maisons d'une certaine Daphné du Maurier qui m'a inoculé le virus des maisons avec son Rebecca quand j'avais peut-être une dizaine d'années. Mais vous avez raison, dans tous mes livres, il est question de lieux. Et dans Les Fleurs de l'Ombre, je me suis projetée encore plus dans cette inspiration et il m'a semblé que d'avoir une héroïne géomètre qui mesure les lieux dans l'espace, en fait, qui essaye de les appréhender par leur en tant que géomètre, par l'espace, par un cadastre, il m'a semblé que c'était peut-être un moyen d'aller jusqu'au fond de mon obsession. Mais je dois vous avouer que après avoir terminé ce livre, même si j'avais été heureuse de pouvoir explorer encore plus mon thème fétiche, eh bien, je n'ai toujours pas vraiment compris pourquoi les lieux m'intéressent autant. Alors, je pense que c'est aussi un petit peu dans la direction de Gaston Bachelard qui disait que notre âme est une demeure. Donc je pense que si on part de là, on peut aller encore plus loin.
Et au début du roman, et c'est évidemment tout sauf un hasard, Clarissa, votre personnage principal, investit un nouvel appartement. Donc elle change de lieu de vie. C'est donc pour elle le début d'ailleurs d'une nouvelle vie, puisqu'elle vient de plaquer son deuxième mari François, qu'elle a pris une nouvelle fois en flagrant délit d'adultère. Alors on ne va pas raconter dans quelles circonstances,
non,
évidemment.
Parce que c'est un adultère un peu particulier.
Voilà, c'est l'un des grands suspens du livre. Vous entretenez d'ailleurs ce suspense quasiment jusqu'au bout à travers le carnet de notes de Clarissa qui s'insère donc dans votre récit principal. Alors, le carnet de notes, c'est un procédé romanesque qui tient donc le lecteur en haleine. Alors vous tournez dans l'écriture autour du pot, Tatiana de René, et vous vous rapprochez et le lecteur avec vous à tout petit pas jusqu'à ce qu'on découvre effectivement ensemble le pot aux roses. Alors c'est assez incroyable, moi je suis tombé de mon canapé, hein, mais évidemment on n'en dira pas plus. Voilà, donc vous avez réussi. Alors juste un petit mot quand même là-dessus, Tatiana de René. Cette écriture qui permet comme ça par petites touches de chapitre en chapitre de donner quelques indices qui après se révèlent effectivement profondément véridiques, mais des indices très sibyllins. C'est un amusement pour la romancière ou c'est une vraie contrainte d'écriture?
Amusement, non. Parce que écrire un roman, c'est du travail, même s'il y a des passages qui peuvent être plus légers, plus amusants. Moi, je voulais montrer ici, surtout, comme je suis à la troisième personne durant tout le livre, sauf dans ces carnets de Clarissa, je voulais quand même montrer son écriture à elle. Donc, vous remarquerez que ces passages-là de son carnet intime sont très différents du reste du texte. Ça a été, c'est vrai, assez rafraîchissant, assez différent d'explorer son univers à elle, de montrer comment elle raconte cette terrifiante histoire avec ses mots à elle, puisque j'avais été tentée dans un premier temps de prendre la première personne pour me mettre à la place de Clarissa pendant tout le livre. Et puis après, j'ai réalisé que je préférais que mon lecteur rentre dans sa tête à elle à travers mon regard que je pose sur elle, mais aussi par ces petites bribes d'intimité que j'offre au lecteur à travers son carnet.
Et donc ce n'est qu'à la fin qu'on comprend réellement pourquoi Clarissa ne veut plus du tout voir son mari, pourquoi elle a quitté l'appartement conjugal et pourquoi donc elle se retrouve dans ce nouvel appartement qui est un peu particulier, d'abord par sa situation, parce que cet appartement il est situé dans le 7e arrondissement de Paris, à l'emplacement même d'un attentat meurtrier qui a détruit la Tour Eiffel, c'est un peu le ground zéro parisien. Alors tout de même, Tatiana de René, détruire la Tour Eiffel, c'est extrêmement violent comme image pour les Parisiens, pour les Français, mais aussi pour le monde entier.
Alors d'abord, je quand même préciser que ce roman se passe dans un futur proche, on va dire 15 ans. Quand on a assisté à la destruction des Twin Towers, il y a déjà longtemps maintenant, quand on a ces images gravées dans sa tête pour toujours, on se dit que la surenchère de la violence des images, et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans mon livre, comment les réseaux sociaux ont pris le dessus presque sur l'information, comment les images sont véhiculées, ces attentats meurtriers qui détruisent plusieurs villes, puisque Je raconte ce qui se passe dans d'autres villes. Bien sûr, il y a Big Ben qui va être détruit. C'est un roman d'anticipation, hein, je vous le précise
mais
vraiment.
Mais c'est terrifiant.
Mais oui, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, je regarde la Tour Eiffel là pendant que je vous parle parce que je suis tout près d'elle. Elle est ma voisine et mon amie. Je l'aime et je prie pour que jamais il ne lui arrive ce que j'applique dans mon livre. Je rappelle aussi que ce passage-là est vu à travers les yeux de Clarissa avec un flashback. C'est-à-dire qu'elle ne le vit pas vraiment puisque ça s'est passé en 2024 au moment des Jeux Olympiques. Donc oui, les romanciers ont un imaginaire parfois très violent, mais je voulais montrer un petit peu comment nous subissons ces attaques dans notre intimité. Clarissa n'est pas à Paris quand ça se passe. Elle est franco-britannique, donc elle était à Londres pour aller voir son père. Elle voit ces images sur la télévision, un peu comme nous avons suivi ces images de sidération devant le 11 septembre. Et même, j'ouvre une parenthèse, devant l'incendie de Notre-Dame qui nous a tous ravagés moralement, même si on n'était pas près du lieu. Donc j'ai voulu aussi montrer la violence des images dans l'esprit d'une écrivaine qui, pour elle, ses armes, ce sont les mots, pas les images. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en parallèle.
Et donc c'est dans ce quartier parisien martyr que s'élève l'immeuble flambant neuf dans lequel Clarissa trouve son nouvel appartement. On est au 8e étage de cet immeuble, une résidence d'artistes et d'écrivains avec des habitants triés sur le volet par une organisation qui s'appelle CASA, qui est dirigée par un médecin assez étrange, le docteur De Winter. Et Clarissa est toute heureuse d'être là, elle est même parfois un peu surprise parce qu'elle se dit après tout il n'y a pas vraiment de raison spéciale, et il faut dire que c'est une sacrée aubaine parce que l'immeuble est hautement sécurisé, il est climatisé, il y a un homme à tout faire très efficace qui s'appelle Ben, il y a un système de courrier interne, quant à l'appartement, il est superbe, il est lumineux, il y a une très belle vue et il est vraiment à la pointe de la technologie. Nous sommes page 79 de votre roman.
Elle resta longtemps dans le noir, figée. Enfin, elle se ressaisit. Mais de quoi avait-elle peur ? Ce n'était pas son genre d'être effrayée. C'était ridicule. Elle était chez elle, elle pouvait regarder qui elle voulait. D'un pas décidé, elle s'approcha de la fenêtre. En face, la lumière était à présent éteinte. Il n'y avait plus personne. Elle saisit ses jumelles, distingua les contours du bureau dans l'obscurité. Les papiers, un stylo. Un minuscule point rouge brillait dans la pénombre comme une veilleuse. Qu'est-ce que c'était ? Le point se fit plus intense, puis disparut. Elle comprit. Et son cœur bondit à nouveau. Une cigarette. La personne fumait une cigarette. Il ou elle devait la voir rivée à ses jumelles. Cette fois, elle se sentit ridicule. Ses joues chauffaient. Rougir, à son âge ? Elle ne put s'empêcher de rire. Et cela lui fit du bien, la réchauffa. Elle rit tant que des larmes perlèrent et elle dut s'essuyer les yeux. Elle n'avait pas ri aux éclats depuis si longtemps. Depuis qu'elle avait quitté son mari. Le chat sur ses talons, elle retourna dans sa chambre. Impossible de dormir. Cela lui arrivait de plus en plus souvent. Prendre une douche ? Pourquoi pas ? La salle de bain était petite mais très agréable. Au-dessus de la douche, un grand Vélux ouvrait sur le ciel étoilé. L'eau coulait doucement sur son corps fatigué. Le docteur De Winter lui avait expliqué que la salle de bain, équipée de capteurs spécifiques, était capable de veiller à sa bonne santé sans qu'elle ait besoin de s'astreindre à grand-chose. Simplement, monter sur une fine balance chaque semaine, poser la paume de sa main chaque jour sur une plaque carrée située à côté du lavabo et fixer matin et soir deux points dans la glace marquée d'un repère lumineux. Son poids, sa tension et son état général étaient ainsi enregistrés. Elle imaginait que toutes ces données étaient stockées quelque part, analysées par le docteur De Winter et son équipe. Avait-elle eu raison de leur accorder un tel accès à son intimité ? Elle n'avait pas eu le choix, se rappela-t-elle. Elle avait signé avec CASA les yeux fermés. Une erreur ? Elle ne parvenait pas à trancher. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle se sentait enfin libre. Elle avait récemment cherché dans le petit dossier qu'on lui avait envoyé lors de son installation la signification de CASA, Centre Adaptatif de Synergie Artistique. Ce qui voulait tout dire et rien dire.
Alors on l'a compris, hein, Tatiana Doronet, on est effectivement dans un appartement ultra moderne. Alors on peut être émerveillé, on peut trouver ça formidable. On peut aussi se dire que Big Brother n'est pas loin, que l'on ne contrôle pas tout. Et très vite d'ailleurs, Clarissa va se poser des questions et évidemment le lecteur avec elle. Au fond, l'intrigue du livre repose sur cette question, paranoïa ou pas ?
L'intrigue du livre repose exactement sur ça. même si j'ai emprunté au code du thriller, au code de la dystopie, au code du roman d'anticipation, j'invite mon lecteur à surfer sur cette paranoïa. Et c'est comme si Casa, cette entité mystérieuse, hein, dont on ne sait pas grand-chose, Clarissa va se faire un film, comme on dit. Mmh. Son entourage, sa fille va croire que sa mère file un très mauvais coton et qu'elle retombe dans un terrain dépressif. Mais sa petite fille, Adriana, est persuadée que sa grand-mère a raison et qu'il se passe quelque chose de très louche dans cette résidence. Et elle découvre aussi que ce fameux docteur de Winter, un peu inquiétant, est une grande pompe de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, je ne donne pas de réponse. Ce n'est pas un roman avec une énigme. Et d'ailleurs, je le dis à quelques lecteurs qui me disent « Mais alors, vous ne donnez pas toutes les réponses à la fin ?» Et je leur explique que je n'écris pas, d'ailleurs, c'est écrit à la fin de la page 32, je n'écris pas pour donner des réponses, j'écris pour donner à réfléchir. Et c'est comme si Casa, cette résidence un peu angoissante, high-tech, connectée, représente un petit peu tout ce que le futur peut avoir d'effrayant quand nous sommes tellement connectés, tellement surveillés, tellement à la merci de nos écrans, de tout ce que nous touchons chaque jour qui nous permet de, bien sûr, de vivre une vie meilleure, mais nous sommes, oui, Big Brother is watching us. Donc, c'est une invitation à la réflexion sur est-ce qu'on a raison ou pas de se méfier des progrès de l'intelligence artificielle au niveau de l'intimité de nos vies, je dis bien l'intimité de nos vies, notre création artistique, nos rapports affectifs, notre sexualité, et oui, il en est question, et notre imaginaire.
Et notamment à travers un personnage qui est assez singulier, qui s'appelle Mrs. Dalloway. Vous pouvez nous le présenter, ce personnage ?
Alors, Mrs. Dalloway, c'est l'assistant virtuel de Clarissa. Lorsqu'elle emménage dans cet appartement, on lui propose de paramétrer, bien sûr, cet assistant. Alors, je vous signale, hein, vous le savez aussi, les assistants virtuels existent déjà. Il y en a même sur votre téléphone. Hein. Vous pouvez leur demander à votre téléphone toutes sortes d'informations. Mais dans 15 ans, on peut imaginer que ces assistants auront pris beaucoup plus d'ampleur et à part gérer votre sécurité, projeter vos mails, vous rappeler votre agenda, vous rappeler la température extérieure, ils sont capables de faire beaucoup plus de choses. Clarissa a choisi d'appeler son assistant virtuel Mrs. Dalloway en hommage à Virginia Woolf, qui est un écrivain qui apparaît souvent dans mon livre au même titre que Romain Gary. Et Mrs. Dalloway, qui a un accent anglais, puisque Clarissa est franco-britannique, au début, c'est très agréable hein, d'avoir quelqu'un qui vous dit que le drone des courses va passer, qui lui rappelle qu'elle n'a pas répondu à sa banquière, qu'il faut qu'elle passe ses tests médicaux dans la salle de bain connectée. Mais Clarissa va supporter de moins en moins l'intrusion de Mrs. Dalloway qui semble regarder tout ce qu'elle fait dans chaque pièce, même jusqu'à influencer ses rêves.
Voilà, et ça c'est vrai que c'est assez inquiétant, c'est même de plus en plus inquiétant pour elle et pour le lecteur qui parcourt votre roman, Tatiana de Ronay. Alors vous le disiez, hein, Mrs. Dalloway, c'est un hommage à la romancière Virginia Woolf, c'est un personnage hein, du roman éponyme qu'elle a publié en 1925, et tous les chapitres de votre roman portent d'ailleurs en épigraphe deux citations, une de Virginia Woolf, l'autre de Romain Gary, deux écrivains que Clarissa vénère. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de placer votre roman sous le signe de ces deux écrivains-ci, Tatiana de Ronay?
Alors d'abord, personne ne les avait mis face à face, si j'ose dire.
C'est pas évident de les associer.
Alors, ils ont un point commun. Ils ont mis fin à leur jour dans ce que Clarissa appelle leurs territoires intimes. On sait que Virginia Woolf s'est suicidée en mars 1944, à un moment très compliqué de sa vie, très difficile de sa vie, où elle a compris qu'elle ne pouvait plus survivre dans ce monde qui lui paraissait, mars 1941, trop cruel. Et donc, elle s'est noyée dans cette rivière qui est en bas de sa maison, près de Brighton. Et nous savons que Romain Gary, également, a mis fin à ses jours dans son appartement de la rue du Bac.
À Paris.
Exactement, à Paris. Et Clarissa va rentrer en écriture par le biais du cadastre autour de ces deux écrivains. C'est comment ils ont investi ces appartements, ces lieux qui l'intéressent le plus. Et comme ce sont des écrivains que j'admire profondément, que j'ai toujours lus, et que, évidemment, personne ne pouvait vraiment mettre en commun Virginia Woolf et Romain Gary, sauf le fait que c'était des écrivains très liés à leur maison, que c'est là où ils ont choisi de mettre fin à leur jour. Et donc, Clarissa, quelque part, va sur leurs traces, et moi, à travers elle. Et autant la rue du Bac, Romain Gary, on sent une tristesse qui s'est passée là, parce que Clarissa a l'occasion d'expertiser l'appartement qui est juste au-dessus de celui de Romain Gary, parce que moi, je vous signale que je n'y ai pas eu accès.
Ah d'accord, vous n'avez pas eu la même chance que le personnage.
Mais non, je n'ai pas eu la chance. Par contre, grâce à votre confrère Augustin Trappenard, j'ai eu accès à la maison de Virginia Woolf qui s'appelle Monk's House, qui est restée exactement dans son jus. On pourrait croire que Virginia Woolf va arriver avec ses sécateurs à la main, qui est allée choisir ses roses comme le fait Mrs. Dalloway dans son roman. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est grâce à Virginia Woolf que j'ai trouvé le titre de mon roman à la dernière minute, puisque j'avais choisi d'appeler mon livre Les lieux intimes. En anglais, ça sonne très bien, Intimate Places, puisque je l'ai écrit également en anglais. Et mes éditrices m'ont fait remarquer que les yeux intimes, ça faisait penser à des toilettes. Moi, je n'avais absolument pas vu ça.
Oui, les fleurs de l'ombre, c'est plus poétique.
Et donc, il y a une phrase justement dans Mrs. Dalloway. Des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l'arbre de la vie. Ce sont des fleurs de l'ombre. C'est un moment qui parle de paranoïa. Et donc, je me suis ruée sur cette phrase. Merci, Virginia Woolf. Flowers of Darkness, c'est aussi très beau en anglais. Donc, c'est Virginia Woolf qui m'a sauvée à la dernière minute pour trouver le titre de mon livre.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Because the Night, Patti Smith dans VMDN sur RFI avec la romancière Tatiana de Ronay pour son roman Les Fleurs de l'Ombre, et votre personnage principal, Clarissa, elle écoute Patti Smith, vous aussi je crois, Tatiana de Ronay.
Oui, ça fait partie de ces petites choses que j'ai en commun avec Clarissa. Beaucoup de gens pensent que je suis Clarissa, mais s'ils avaient voulu écrire sur moi, je m'écrirais bien autrement, je vous l'assure. Mais bon, si mes lecteurs pensent que c'est moi, ben je me dis que j'ai réussi à créer un personnage de femme, après tout, très crédible. Alors, c'est peut-être moi dans 15 ans. On verra bien.
Alors, en tout cas, vous avez un autre point commun avec Clarissa. Vous en disiez un mot vous-même tout à l'heure, c'est le bilinguisme.
Oui.
Vous êtes comme elle, vous passez parfaitement du français à l'anglais sans aucune difficulté. Et dans votre récit, Clarissa essaie d'ailleurs d'écrire le même livre simultanément dans les deux langues. Et vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est d'ailleurs marqué sur la quatrième de couverture du livre, Les Fleurs de l'Ombre ont été écrits simultanément en français et en anglais. Ça, c'est un exercice inédit pour vous ?
Oui, j'ai deux langues maternelles en fait. Je suis française par mon père, anglaise par ma mère. J'ai appris à lire et à écrire dans les deux langues en même temps et j'ai eu deux langues d'écriture. J'ai toujours oscillé, si vous voulez, entre l'anglais et le français. Et je n'avais jamais tenté l'autotraduction, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur. Je n'aime pas tellement d'ailleurs l'acte de traduire. Je trouve qu'il est épineux, compliqué. Et j'ai toujours été traduite de français en anglais ou d'anglais en français avec plus ou moins de bonheur et de malheur, on va dire. Certains traducteurs se sont mieux pris d'autres que d'autres. Et c'est toujours un moment très étrange pour un auteur bilingue de voir arriver son texte dans l'autre langue. Mmh. Et là, comme dans ce livre, j'étudie le bilinguisme pour des raisons chères au docteur de Winter, on va dire, je me suis dit, mais si je tentais cette expérience d'écrire ce livre en même temps, en anglais et en français, je pensais honnêtement que j'allais faire 3 pages et être obligée de choisir une langue, ce que je fais d'habitude, toujours avec un petit serment au cœur, puisqu'il y a une langue que je laisse de côté. Et là, à ma stupéfaction, eh bien, le livre se construisait en allant de l'anglais au français, c'est-à-dire que j'avais 2 pages ouvertes sur mon ordinateur en même temps, et j'allais de l'un à l'autre, je remodelais le français pour qu'il corresponde à l'anglais, et vice-versa, ce qui fait que je suis incapable aujourd'hui de vous dire, si j'ouvre une page là, au pif, là, je l'ai devant moi, oui. La page 172, je suis incapable de vous dire si j'ai écrit ce passage-là en anglais ou en français à l'origine.
Mais alors, vous avez fonctionné paragraphe par paragraphe, page après page, chapitre par chapitre ?
Presque phrase par phrase. C'était un travail incroyable. Et je relisais tout à voix haute en même temps. C'est pour ça que ça m'a fait sourire tout à l'heure en écoutant votre collaboratrice lire mon livre à voix haute, puisque je l'ai tellement lu. D'ailleurs, je l'ai enregistré. Hein. Il existe en version audible, si ça peut intéresser vos auditeurs. Ça a été une belle aventure aussi de l'enregistrer. J'aime beaucoup lire à voix haute. Donc, je lisais ce texte en permanence, à voix haute, en anglais, en français. Et à un moment, Clarissa le décrit d'ailleurs, ce processus. C'est comme si on quittait ce double processus. C'est comme si on quittait un petit chemin de campagne tranquille pour tout d'un coup arriver sur une autoroute au volant d'une grosse voiture avec une grosse puissance et qu'on ait cheveux au vent et qu'on a un double moteur. C'est ça, en fait, avoir un cerveau hybride. C'est pouvoir piocher dans les deux langues. Alors, c'est peut-être difficile pour vous de comprendre ça maintenant tel que vous m'entendez. But maybe I can continue in English so you can understand that for me, it doesn't really make a difference, that switching d'une langue to the other, c'est un exercice qui m'est naturel quelque part. Et donc là, j'ai donné libre cours à cet incroyable plaisir. D'ailleurs, Clarissa décrit ça à un moment comme si elle était une espèce d'abeille vorace qui butinait dans 2 ruches. Et donc oui, je suis une abeille vorace qui a 2 ruches d'écriture, l'anglaise et la française.
Et donc vous avez envie, j'imagine, de renouveler l'expérience?
Oui, je pense que je suis un peu coincée maintenant. C'était une expérience un peu à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, je ne sais pas qui est l'anglais, qui est le français là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans entre Jekyll et Hyde. Mais je serais bien incapable aujourd'hui de laisser mon livre être traduit à nouveau. Mais en même temps, la vie est longue, on ne sait jamais. Je vais peut-être un jour refaire traduire un livre parce que je n'ai pas le temps. Ça prend du temps quand même, hein. C'est un double travail. Vous rendez 2 livres en même temps à vos éditeurs. Je me souviens qu'ils avaient les yeux écarquillés. Ils n'avaient jamais vu ça.
Et donc, le livre va aussi sortir dans le monde anglo-saxon, Tatiana Doron, si ce n'est déjà fait.
Absolument. Il sortira aux États-Unis, je crois, en début d'année prochaine. Je suis en train, d'ailleurs, de travailler sur les épreuves de Flowers of Darkness que j'ai écrit en anglais avec mes éditeurs américains.
Donc, voilà. Une expérience enrichissante, très positive pour vous, sauf que Clarissa, elle, c'est pas si facile que ça, parce qu'elle dit quand même qu'elle se sent parfois un peu schizophrène, justement, en raison justement de cette double culture et de cette appartenance à double langue.
Mais elle a bien raison, Clarissa. Quand on a une double culture, quand on est hybride, on ne sait pas très bien d'où on vient. J'ai beaucoup de mal à choisir un pays sur l'autre. Vous pouvez imaginer que le Brexit a été pour moi un déchirement épouvantable. C'était comme le divorce de mes racines. Je n'arrive toujours pas à croire que ça s'est passé. Je n'arrive toujours pas à imaginer. D'ailleurs, je parle du Brexit dans mon livre d'une façon un peu négative. J'ai même redonné un nouveau nom à l'Eurostar. Il s'appelle le Star Express dans mon livre. Donc, on se sent schizophrène. Mais comme beaucoup de gens qui ont cette double culture, on peut se revendiquer de 2 cultures, mais si on doit en choisir une, on ne peut pas.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
avec la romancière Tatiana de René qui publie Les Fleurs de l'Ombre, une coédition Robert Laffont et Loïse d'Ormesson. Et l'ombre, c'est aussi le poids du secret, des mensonges, le poids du passé aussi que nous trimballons tous avec nous. Alors évidemment, on va pas tout raconter, Tatiana de René. Disons seulement que votre héroïne Clarissa a vécu un drame terrible en tant que femme, en tant que mère, un drame dont elle ne s'est jamais complètement remise, un drame qui continue à peupler ses rêves, son inconscient aussi, hein, qu'elle a pu surmonter grâce à l'hypnose. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'introduire aussi cette dimension-là dans le roman?
J'ai découvert l'hypnose, pas du tout pour les mêmes raisons que Clarissa, je précise, il y a quelques années. Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était quelque chose de ludique, comme une sorte de relaxation, rien de plus. Et le monde de l'hypnose m'a d'ailleurs beaucoup appris à gérer une certaine forme de stress, celle dont je souffrais à l'époque. Mais surtout, l'hypnose vous emmène dans une sorte de monde imaginaire qui peut ensuite vous aider. C'est un monde très visuel puisqu'on vous demande de visualiser des lieux et des images. Et en tant qu'écrivain, j'ai trouvé cette expérience absolument fascinante et j'ai voulu la partager avec mes lecteurs. Donc j'ai imaginé comment Clarissa, qu'est-ce qu'elle pouvait, elle, imaginer par rapport à ses traumatismes de perte et de ce qu'elle a vécu. Et ça a donné une page assez étrange et poétique dans le livre qui nous entraîne dans un autre monde, dans une autre dimension, puisque l'hypnose fait ça. Et c'était donc une grande tentation pour moi de... Je pense que je n'aurais pas pu écrire ce passage-là si je n'avais pas vécu moi-même une forme de sortir de son corps comme ça.
Et puis,
comment ça s'est passé?
Et puis il y a aussi un autre thème très important qui sous-tend l'ensemble de votre récit, c'est la relation entre grand-mère, fille et petite-fille, donc entre trois générations. Il y a donc Clarissa, il y a la petite-fille Adriana, surnommée Andy, hein, une ado plutôt intrépide, très intelligente et qui est très proche de sa grand-mère. Et puis il y a aussi donc la mère d'Andy qui s'appelle Jordan. Et ce qui est intéressant, Tatiana de René, c'est que vous expliquez entre les lignes, hein, ça se voit en particulier dans les dialogues qui sont très très nombreux dans le roman, que l'âge sous-tend des rapports complètement différents avec la technologie. C'est pas du tout la même chose.
Oui, et puis vous oubliez la quatrième génération, vous oubliez le père de Clarissa.
Ah, mais j'allais y venir après.
Ah, d'accord. Donc, merci. Donc, c'est vrai que ça a été pour moi une sorte de panel de pouvoir explorer justement comment Clarissa converse, comment elle parle avec sa famille. J'ai un petit faible pour Adriana, c'est la petite fille que je n'ai pas encore, qui a une entente extraordinaire avec sa grand-mère, qui est quelqu'un d'extrêmement fine, qui a compris plein de choses et qui a un respect profond pour sa grand-mère et une admiration inouïe pour elle parce qu'elle trouve que sa grand-mère, c'est vraiment quelqu'un qui est hors du commun et même dans ce moment fragile que traverse Clarissa. Et puis j'ai voulu aussi montrer que sa fille, grande scientifique, hydrologue, hein, qui s'occupe du risque de crue, comment elle, au contraire, elle va rentrer dans une inquiétude par rapport à sa mère et que justement cette paranoïa dont va être victime Clarissa va beaucoup inquiéter Jordan. Et d'ailleurs, il y aura un clash à la fin un peu difficile entre les deux.
Oui, alors on va pas en dire plus. Alors, vous vouliez parler à tout prix du père, effectivement,
oui,
de Clarissa, Tatiana de René. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce personnage, qui n'est pas très présent, si on compte le nombre de lignes qui lui sont consacrées dans le roman, et pourtant dont la figure est toujours là, comme une sorte d'ange protecteur pour Clarissa?
C'est vrai que c'est un très vieux monsieur qui va avoir 100 ans. C'est vrai aussi que les seniors, dans 15 ans, auront de plus en plus de place dans nos vies, hein, on le sait. J'ai pensé bizarrement en écrivant ce texte, c'était Jean d'Ormesson qui m'est venu à l'esprit, c'est le père de mon éditrice, Héloïse d'Ormesson, comme vous le savez. Mmh. C'était un monsieur qui avait un tel optimisme de la vie, même aux moments les plus compliqués, même quand il était malade à la fin de sa vie. C'était quelqu'un qui respirait l'optimisme, qui avait ce regard bleu, tellement pétillant, tellement espiègle. Et donc c'est grâce à Jean d'Ormesson que j'ai façonné ce personnage, un centenaire anglais qui aime bien les gros mots, qui s'exprime de façon aussi très précise et qui encourage sa fille, qui sait bien que sa fille est fragile. Et vous avez raison, lui aussi, son ombre plane tout au long du livre, il est là pour encourager Clarissa, il est là pour l'inciter à toujours danser, à toujours sourire, même si ce que nous vivons et ce qu'elle vit est difficile. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé créer ce personnage de père espiègle et optimiste et positif.
Et ce livre, vous l'avez dédié à votre père, à vous,
alors,
Joël Doronet.
Alors, je l'ai dédié à mon père, c'est vrai, qui est un très grand scientifique.
Spécialiste des technologies, passionné du futur, justement.
Et justement, je voulais en venir à lui. Mon père m'a tellement inspirée pour ce livre à partir de nos conversations intimes. Je lui ai tiré les vers du nez, bien sûr, sans qu'il s'en rende compte, pour lui faire parler de l'intelligence artificielle, des salles de bain connectées, justement, des assistants virtuels, de ce qu'on sont capables de faire les drones, les robots. Papa s'est pas rendu compte vraiment que je faisais ça. Il a été ému quand il a lu ce livre parce qu'il m'a dit « Tu as écrit un roman d'anticipation où tout est vrai. Et moi, en tant que scientifique, je n'ai rien à te dire. Tu t'es trompé nulle part sur comment nous pouvons nous projeter dans ce futur. » Et il a eu cette phrase qui m'a tellement plu. Il m'a dit « Clarissa, elle a compris quelque chose d'important dans ce livre et que tu transmets comme un message, c'est qu'il ne faut pas oublier jamais la place que nous avons en tant qu'êtres humains dans un monde de plus en plus robotique, robotisé, mécanisé. Ne jamais oublier la place que nous avons en tant qu'êtres humains. » Donc j'ai envie de lui dire « Merci papa ».
Mais alors justement, je vous renvoie un petit peu la question, Tatiana Doronet. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui que les robots finissent par remplacer les artistes, les musiciens, les comédiens, les écrivains peut-être aussi ?
C'est la grande peur de Clarissa dans ce livre. A-t-elle raison ou tort ? On ne le saura pas. Mais c'est une question qui est très valable, qu'on peut tous se poser, puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de reproduire des tableaux, des musiques et même des textes, hein, certainement. Et donc toute la problématique du livre s'articule de « mais qu'est-ce qu'on pourrait puiser dans le cerveau des artistes pour que les robots créent comme les artistes ?» Je préfère utiliser un terme encore emprunté là à mon cher père qui dit qu'il est un optimiste inquiet. Je préfère regarder ce futur avec optimisme qu'inquiétude, parce que même s'il est anxiogène, c'est vrai, encore plus dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce confinement, je préfère garder la petite lueur d'espoir, et je dirais que le maître mot dans tout ça, c'est aussi résilience. Comment nous, en tant qu'humains, nous pouvons résister ? Quelle est notre résilience par rapport à ce monde qui nous attend ?
Alors justement, on parle beaucoup du tracking, de cette application qui permettrait peut-être de tracer les malades du Covid-19. Vous faites partie sur ce point des optimistes ou des inquiets ?
Les deux. Je comprends tout à fait qu'on ait besoin de pour lutter contre ce virus, d'utiliser tous les moyens dont nous disposons. Je comprends aussi, et là c'est Clarissa qui vous parle, que c'est quand même empiété d'une façon terrifiante sur notre propre liberté, notre intimité. Le sujet de mon livre, c'est ça, c'est comment sauvegarder notre intimité par rapport à toutes ces intrusions que nous vivons au quotidien par nos téléphones, nos ordinateurs. Nous sommes traqués, nous sommes géolocalisés. Donc oui, je me pose des questions. En même temps, je ne veux pas non plus pouvoir m'opposer à un moyen qui nous permettrait de lutter efficacement contre ce virus.
En tout cas, vous ne seriez pas volontaire ?
Pourquoi pas ? J'ai rien à cacher. Hein. Je suis un peu confinée en ce moment dans le 15e arrondissement de Paris. Je vais pas dans des endroits très excitants. Et donc, peut-être que je serais heureuse de savoir que la personne d'à côté est porteur du virus. Ça m'aiderait de le savoir. Je voudrais... C'est compliqué la période dans laquelle nous vivons. Hein. Nous devons porter des masques, nous devons respecter les gestes barrières. D'ailleurs, c'est tellement ironique. Aujourd'hui, nous vivons cette espèce de repli sur nous-mêmes. Nous sommes retranchés derrière nos écrans encore plus. C'est tout ce que Clarissa reproche à ce monde moderne. Mais c'est lui qui nous rapproche aussi en ce moment. C'est ce qui nous permet de nous parler, vous et moi, en ce moment, et de faire cette interview. Nous faisons des conférences par Zoom, nous les écrivons en ce moment, j'ai enregistré la grande librairie par Skype, hein, donc nous sommes à la fois les victimes et en même temps nous utilisons ces nouvelles technologies avec tout ce qu'elles nous proposent aujourd'hui dans notre confinement, et que serions-nous sans elles ?
Merci, merci beaucoup Tatiana Doronet. Je rappelle que Les Fleurs de l'Ombre, votre nouveau roman, est une coédition Robert Laffont et Loïse d'Ormesson.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors si certains se mettent à faire les 100 pas lorsqu'ils sont au téléphone, d'autres attrapent un crayon et se mettent à gribouiller sur un coin de feuille. C'est le cas du dessinateur de BD Yoren Gerner. Il a réuni ses carnets de dessins téléphoniques dans un livre intitulé Atelier, publié aux éditions L'Association. Alors il est évidemment confiné, comme tous les articles. C'est donc au bout du fil qu'Amélie Beaucourt a réussi à discuter avec lui.
Allô ?
Allô, Yoren Gerner ?
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Eh ben oui, ça va bien. Je suis chez moi, dans mon atelier.
C'est un livre un peu particulier qui se cache sous cette épaisse couverture en tissu. De l'extérieur, ça ressemble à un journal intime, un carnet de notes, mais à l'intérieur, on découvre une multitude de formes géométriques en tout genre, mélangées à des inscriptions parfois identifiables, comme un titre de film japonais, ici, sur la gauche, ou le numéro d'une brasserie, là, sur la droite. Mais elles sont parfois tout à fait énigmatiques. Un prénom, une citation sans auteur, une phrase incomplète. L'étrange objet que j'ai entre les mains n'est pas un récit, mais une invitation à me balader dans la tête du dessinateur Yoren Gerner quand il est au téléphone.
Je travaille sur ce carnet avec l'outil que j'avais en main quand le téléphone s'est mis à sonner. C'est-à-dire si je suis en train de travailler au feutre ou avec la peinture, il va pouvoir y avoir des taches de peinture. Je dessine et je ne sais pas du tout comment la page va s'organiser. Mais c'est-à-dire que je tourne la page seulement une fois que la page est entièrement remplie de dessins et d'écriture.
C'est donc une copie sans retouche des pages à spirale qu'il a noircie entre 2008 et 2019. Mais ce n'est pas le premier. Deux autres livres similaires ont déjà été publiés, car Yoren Gerner conserve ses carnets de dessins téléphoniques depuis 1994.
Au départ, je dessinais énormément parce qu'il y avait beaucoup plus de conversations téléphoniques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de mail. Et maintenant, comme c'est beaucoup plus rare finalement d'avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un, ce journal se remplit de manière beaucoup plus lente. Une page, ça correspond à peu près à 3 mois de conversation téléphonique.
Est-ce que vous avez vu une évolution de vos dessins ?
Ah oui, complètement. Puisque quand j'ai commencé le premier carnet, je sortais tout juste de l'école des Beaux-Arts. Il y avait beaucoup plus de dessins uniquement figuratifs, un style un petit peu éloigné de ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, c'est plus minimaliste, plus petit, plus resserré comme ça. Et au départ, c'est quelque chose de presque plus narratif aussi.
Contrairement au carnet précédent qui faisait la part belle à la nature, on retrouve dans cette nouvelle version des dessins rappelant du matériel de construction. Échafaudage, briques, planches. Et réflexion faite, toutes ces formes qui s'empilent et qui s'imbriquent n'ont pas été dessinées par hasard.
Quand j'ai fait ce carnet, à un moment donné, il y avait des travaux dans ma maison. Donc inconsciemment, j'ai dessiné les matériaux de construction, le sable. C'est vraiment étrange que inconsciemment, ça se soit retrouvé dans mon carnet au fur et à mesure des pages, donc sur plusieurs mois. Donc ça m'a vraiment marqué comme un élément voilà, qui témoignait de ce qui se passait autour de moi. Voilà.
Avec le temps, Yoren Gerner a fait de ses carnets un élément essentiel de son travail, un objet d'étude comme un cahier de brouillon qu'il conserve précieusement et dont il se nourrit pour ses illustrations.
Mon métier, c'est justement de travailler dans le dessin, de dessinateur, mais j'ai un type d'écriture et de dessin qui n'est pas le même quand je suis au téléphone et quand je n'y suis pas. C'est pour ça que je le fais, parce que ça génère des formes tout à fait inattendues. Pour moi, c'est une sorte de répertoire de formes aussi que après plus tard dans mon travail je vais pouvoir utiliser autrement. Finalement, ça me fait créer des formes, des types de traits, de toutes sortes de tubes, de matériaux, de pointillés, de tâches. Ça devient comme une sorte de pièce à outils que je vais utiliser ailleurs.
Est-ce que vous avez dessiné pendant cet appel téléphonique ?
Oui. Je m'aperçois là que j'ai dessiné un petit chemin qui serpente et qui s'éloigne, je vous le dis en le découvrant moi-même, une étoile, une petite étoile noire, et puis un mot, et c'est marqué « voix ». Donc je ne sais pas si je voulais écrire « voir », et je n'ai pas écrit la dernière lettre, mais c'est étrange, voilà, je découvre moi-même.
Merci.
Merci à vous aussi. Enfin.
Amélie Beaucourt pour VMDN, et n'hésitez pas à gribouiller, bien sûr, en écoutant la radio, et on ne sait jamais, ça peut donner des choses intéressantes. Merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour d'autres découvertes culturelles, et vous m'en direz des nouvelles.